va plutôt chercher à avoir une économie qui, en plus de sa fonction première, va entretenir la résilience du système dans lequel elle intervient, sa capacité d'adaptation, sa capacité d'évolution face à des changements globaux qui, de toute façon, seront là. Et donc, c'est ça l'économie régénérative, c'est finalement agir sur le présent en préparant le futur.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Emmanuel Delannoy. Donc Emmanuel, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui.
Bonjour.
Je suis très contente de te recevoir dans le podcast, ça fait déjà plusieurs années qu'on est en relation, on a essayé de bosser ensemble plusieurs fois, on intervient ensemble sur notamment des événements, donc c'est vraiment cool d'être avec toi. Est-ce que avant de rentrer dans les détails de ta méthodologie, de tes actions, activités, tu pourrais dans un premier temps te présenter?
Oui, alors sans faire une histoire qui soit trop longue, je dirais que j'ai un parcours qui est tout souvent sur deux trajectoires parallèles. Une trajectoire de biologiste, de naturaliste, de militant bénévole hein, dans des associations de nature et de l'environnement. Et puis une autre qui était celle d'un manager dans des entreprises plutôt classiques. Du secteur financier, du secteur industriel, du secteur de l'intégration de logiciels informatiques, enfin des choses qui n'avaient vraiment rien à voir. Cela dit, la nature a souvent été pour moi une source d'inspiration, y compris quand il fallait expliquer des choses relativement complexes, et c'était une bonne porte d'entrée vers la complexité. Et donc ça m'a amené précocement à m'intéresser au biomimétisme, c'est-à-dire la façon dont l'intégration de la nature, des processus naturels dans nos modes de raisonnement qui sont plutôt cartésiens, linéaires, séquencés, finalement se dire est-ce que ça ne pouvait pas nous apporter quelque chose. Et dans un premier temps, c'était un bon vecteur pédagogique, puis je me suis dit, tiens, on peut faire quelque chose de plus avec ça. Voilà, tout ça pour dire que progressivement, ça m'a amené aussi à réfléchir à toutes ces zones de frottement, d'interaction entre économie et biodiversité. Quand je dis frottement, c'est parfois un peu rugueux quand même, hein, les relations entre l'économie et la biodiversité. Et donc, j'ai créé une structure qui a existé pendant 10 ans, qui était un think and do tank, qui s'appelait l'Institut Inspire, et dont l'objectif était vraiment de réfléchir à des nouvelles approches qui permettaient de, alors non pas de, c'est un peu naïf de dire ça, de réconcilier économie et biodiversité, mais de réfléchir à des stratégies qui permettraient de réinscrire les modes de développement humain dans la dynamique de la biosphère. Voilà, donc c'était la base de l'Institut Inspire, et donc ça m'a amené à travailler avec des scientifiques, des entrepreneurs, des élus territoriaux, des responsables d'ONG, une approche très interdisciplinaire, à la fois sur les sciences économiques, sur des aspects plus techniques, sur des sciences humaines, l'économie comportementale, et bien sûr les fondamentaux de l'écologie et de la biologie qui étaient toujours là. Que dire d'autre? Peut-être juste deux ouvrages qui ont été écrits pendant tout ce temps-là. Un premier qui s'appelle « L'économie expliquée aux humains », qui est un petit livre de vulgarisation justement sur les relations entre économie et biodiversité. Et un second qui s'appelle « Permaéconomie ». On en reparlera un peu plus tard, j'imagine.
Ok, super. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles chez Picaya. Enfin, tu as une activité suite à l'Institut Inspire que tu as...
Tout à fait. Donc, Picaya est un bureau d'études dont je suis l'un des associés fondateurs, dont la baseline et l'approche, ce sont vraiment des solutions biomimétiques. Et quand on dit solution biomimétique, c'est vraiment l'idée de considérer le biomimétisme comme un cadre de référence stratégique plus qu'une boîte à outils de solutions techniques. Ce qui nous intéresse vraiment dans le biomimétisme, c'est la vision et notamment la compatibilité des modèles économiques avec, encore une fois, la dynamique d'évolution et de spontanéité des écosystèmes.
Ok, super. Merci beaucoup. Du coup, effectivement, on va parler de permaéconomie, puis on va commencer tout de suite à en parler. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce que la permaéconomie et comment c'est né, aussi bien dans ton esprit que concrètement dans les actions que t'as pu mener?
Alors, comment c'est né la permaéconomie ? Ben d'abord, ça vient de la permaculture, hein, donc la permaculture, elle est née dans les années 70 avec des fondateurs, notamment que sont Bill Mollison, David Holmgren, inspirés eux-mêmes par un japonais qui s'appelle Manazobu Fukuoka, avec la fameuse révolution d'un seul brin de paille, par exemple, des bouquins comme Permaculture One, etc. Et là, l'intention était, et c'est d'ailleurs intéressant dans la formule, c'était de concevoir et de piloter des systèmes de production humain durable en s'inspirant des fonctionnements et des processus naturels. C'est-à-dire d'avoir une agriculture, parce que finalement la base de l'économie, ça reste quand même l'agriculture, une agriculture qui permette à la fois d'obtenir une récolte, d'être productive, mais en même temps d'entretenir la résilience et la capacité d'adaptation au changement des écosystèmes.
Ok.
Ben finalement, quand on pose cette définition-là comme ça, quand on se dit finalement la permaculture, l'intention de départ, c'est concevoir et piloter des systèmes de production humain durable, ben on se dit, mais pourquoi ce serait limité à l'agriculture ? Et ben finalement, on se dit, ben non, pas du tout, il n'y a pas de raison. Donc on peut très bien appliquer la permaculture à des choses comme l'éducation, à des choses comme la finance, à des choses comme la fabrication d'objets, la délivrance de services, la construction d'habitations, voire pourquoi pas la conception de villes, etc. Et donc finalement, le champ de la permaculture est très très large, et c'est pour ça que je l'ai renommé permaéconomie en me disant, tiens, je vais essayer de l'appliquer à la conception de modèles économiques durables.
D'accord. Et du coup, concrètement, c'est quoi ? C'est des principes que tu appliques au système économique ? C'est des bons réflexes à prendre ? C'est des méthodologies ?
Oui, c'est un peu tout ça. Et c'est pour ça que c'est un cadre de référence qui est très multidimensionnel, finalement. Il y a d'abord, finalement, des principes de penser et d'agir de manière systémique. Donc c'est de voir large, de voir loin, de changer un peu la manière dont on va poser notre regard sur les choses. Il y a un des principes de la permaculture, d'ailleurs, qui dit c'est observer et interagir. Une des règles, par exemple, alors c'est pas une loi des reins, mais ce serait de dire on n'intervient pas sur un écosystème, donc une parcelle de culture, par exemple, on n'intervient pas avant d'avoir observé les choses pendant un an. Comme ça, au bout d'un an, on a compris un petit peu ce qui s'y passait. Tout ça pour dire que ça doit être une posture qui repose sur une attention aux dynamiques spontanées, avec finalement l'intention d'agir le moins possible, d'intervenir le moins possible, pour ne pas perturber justement la résilience et la capacité d'adaptation des systèmes sur lesquels on intervient. Il y a une posture de patience. Alors, pour continuer de répondre à ta question, en fait, il y a trois niveaux. Il y a ces grands principes systémiques. Il y a des grands principes éthiques aussi, donc qui sont simplement prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager équitablement. Et dans la notion de partage équitable, moi, j'aime bien dire que c'est pas seulement le partage entre humains, mais c'est aussi le partage entre humains et non-humains. Nous partageons tous cette ressource planétaire, cet espace planétaire avec d'autres espèces vivantes que nous. Et on doit leur laisser de la place et des ressources planétaires. Et enfin, associé à cette éthique de la permaculture, il y a 12 principes de la conception permaculturelle. Donc j'ai parlé notamment d'un principe qui est observer et interagir, il y en a plein d'autres, on illustrera après. Et ce sont vraiment des principes pour guider la pensée, pour guider la conception, mais aussi pour guider le pilotage et finalement l'action au quotidien. Donc c'est un mécanisme finalement qui est assez fractal. Ça fonctionne très bien au niveau stratégique, mais ça fonctionne aussi très bien à des niveaux très opérationnels.
Ok. Et du coup, effectivement, est-ce que tu aurais quelques exemples d'application d'un ou plusieurs principes, parce que je suppose que c'est jamais appliquer 100% des principes, c'est une posture, comme tu dis.
C'est une posture et c'est surtout la capacité à accepter que ces principes, on est encore une fois dans le systémique et pas dans le linéaire, on n'est pas dans le raisonnement en silo, c'est-à-dire que ce n'est pas un principe, pilote, etc. C'est quelles sont les tensions qui émergent entre ces principes et qu'est-ce que finalement le croisement de plusieurs principes va générer. Je vais donner un exemple, il y a un principe qui va être, alors je n'ai plus la formule exactement en tête, mais c'est valoriser la biodiversité. La diversité au sens large. Un deuxième principe qui va être utiliser les bordures et valoriser les marges. Alors, bordure, marge, tiens, à la limite, quand on a un carré de potager, on comprend bien, il peut y avoir une haie coupe-vent, donc ça va être une bordure. Est-ce que cette haie coupe-vent, elle va avoir une autre fonction que simplement de couper le vent? Ben oui, peut-être qu'elle aura une autre fonction qui va être d'abriter des auxiliaires pour l'agriculture, des oiseaux, des petits insectes, etc. Et donc, on voit bien que, voilà, entre les bordures et les marges et la diversité, on a deux principes qui, combinés ensemble, vont s'articuler et vont faire émerger quelque chose de différent, de supérieur. Et en permanence, en fait, en permaculture, on cherche à appliquer le principe de l'émergence qui veut que 2 plus 2 égale 5. On n'est pas dans une stricte addition de fonctions et de principes, mais on est dans la recherche de quelque chose qui va être fécond et qui va générer en permanence quelque chose de plus.
D'accord. Et du coup, on a un peu tendance à penser que ces principes-là, et là ton exemple l'illustre, hein, mais sont réservés à l'agriculture ou sont réservés à ce qui touche uniquement aux ressources, la terre et les ressources naturelles sans transformation. Est-ce que tu aurais un cas, soit dans une industrie, tu parlais tout à l'heure de banque, tu parlais d'industrie, est-ce qu'il y a des cas appliqués à ce cadre-là?
Oui, ben, pour garder les mêmes principes, d'ailleurs, c'est intéressant, on va rester là-dessus. Si je prends toujours diversité et bordure et marge, l'application, et je vais prendre un cas concret qui est un service de micro-mobilité qui est basé à Marseille, une structure alors que j'ose plus appeler une start-up parce qu'elle a déjà bien grandi depuis quelques années, qui s'appelle Totem Mobi. Le premier constat, ça a été de dire, on va prendre en compte une réelle diversité. Quand on parle de Marseille, c'est difficile de ne pas parler de diversité. Diversité de besoins, diversité d'enjeux auxquels on doit chercher à répondre, diversité d'acteurs avec lesquels on va intervenir. Et on se rend compte que finalement, cette structure évolue dans un écosystème qui est extrêmement complexe, avec parfois des conflits d'intérêts, mais parfois aussi des convergences qui vont être surprenantes. Et associé à cet aspect de bordure et de marge, ça a été de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est central aujourd'hui dans la stratégie d'entreprise? Qu'est-ce qui est aujourd'hui périphérique, mais qui pourrait demain avoir un impact majeur? Et dans cette vision périphérique, il y a par exemple eu une alliance avec la Maison départementale de l'emploi qui se posait la question de la mobilité des primo-accédants à l'emploi ou de gens qui sortaient d'une longue période de chômage, qui pour retrouver un emploi sont obligés d'accepter des emplois en poste décalé ou dans des endroits peu accessibles, mal desservis par les transports en commun, etc. Et puis évidemment, quand on a été chômage longtemps, on n'a pas forcément une voiture, donc on se pose le problème de la mobilité individuelle. Et bien, il se trouve que la solution Totem Mobi a porté un élément de réponse à cette solution. Même si initialement l'entreprise n'avait pas été conçue pour ça, en bordure de son scope stratégique, il y avait cet événement-là, ce contexte local-là, et finalement ce partenariat avec la Maison départementale de l'emploi a été très fécond et a permis de lancer aussi l'entreprise, de la mettre sur les rails. Donc voilà un exemple typiquement où on a deux éléments qui vont s'associer. Si je peux prendre un autre exemple, typiquement, on a des principes bien connus qui sont ne produire aucun déchet et capter et stocker l'énergie. Alors, on peut l'apprendre au sens strict, immédiat. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet? C'est un rebut qu'on met à la poubelle, etc. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'énergie? L'énergie, c'est ce qu'on met dans le réservoir de la voiture, etc. Mais quand on parle d'agriculture, l'énergie, c'est l'énergie du soleil, par exemple. Quand on parle d'apprentissage, tiens, je m'intéresse maintenant au système éducatif. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Ça va peut-être être tout simplement l'appétence des enfants, et même de tout public d'ailleurs, pour découvrir des nouveaux concepts, pour apprendre des nouvelles choses. Et c'est une énergie naturelle, spontanée, qu'on va essayer de capter, c'est-à-dire que plutôt de forcer l'enfant ou l'apprenant à annonner et à apprendre bêtement par cœur, on va l'accompagner dans un processus de découverte, mais qu'il ferait de toute façon spontanément. Donc ça, c'est un premier point. C'est, l'énergie, ça peut être toutes sortes de choses. L'énergie, ça peut être de la motivation. L'énergie, ça peut être de la confiance. Voilà, c'est pas forcément des calories au sens kilojoule. Et la notion de défi, elle doit être prise dans un sens beaucoup plus large. Et si je reste sur le cas de l'éducation, qu'est-ce que c'est qu'un déchet, finalement? Les Japonais ont un mot qui s'appelle le muda. Muda, c'est finalement tout ce qui consomme de la ressource sans créer de valeur. Mmh. Bah, appliqué à l'éducation, le muda, c'est le temps qu'un enseignant va passer face à un ou plusieurs apprenants. Et si ce temps n'a pas conduit à ce que les compétences soient intégrées et appropriées par les apprenants, et ben ce sera de la ressource qui aura été perdue. Ça veut dire qu'à un moment donné, si en plus ce temps a suscité du découragement parce que l'apprenant se dit « c'est trop compliqué, c'est trop dur pour moi, etc., je vais pas y arriver », et ben là, on est vraiment dans du mood. Ben c'est typiquement ce qu'on va chercher à éviter.
D'accord. C'est passionnant. En fait, c'est clairement la notion de déchet, elle est pas que matérielle. Et puis, je suppose que ça passe aussi par ce que tu évoquais avant, sur toute la notion de coopération, d'empathie, d'inclusion, où c'est aussi le gâchis de talent, c'est aussi lié à la dévalorisation ou à la non-considération d'un capital humain, etc. Donc,
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut même appliquer les principes de la permaculture à la conception de modèles de gouvernance et qu'effectivement, un modèle de gouvernance qui va générer de l'exclusion ou même simplement, comme dit Isaac Goetz, des gens qui sont à l'intérieur du système activement désengagés, donc quelque part des saboteurs internes parce qu'ils n'y croient plus, ils sont découragés, etc. On est en plein dans ce concept de Bouddha. C'est-à-dire qu'on aura mobilisé beaucoup d'intelligence pour concevoir un système de gouvernance, mais qui finalement n'est pas capable d'inclure tout le monde et n'est pas capable de valoriser l'ensemble des talents qui seraient à l'intérieur de la structure.
Ok, du coup, ça m'amène à deux questions. La première, c'est j'ai l'impression qu'il y a pas mal de principes, là que tu évoques, de la permaéconomie qui font écho au principe de résilience. Donc, multiplier les ressources, les équilibrer, qui est également compter sur les volontaires. Je suppose que c'est deux choses que tu mets que t'associes souvent, quoi.
Oui, alors aujourd'hui, en fait, très concrètement, moi, j'associe la permaculture, la permaéconomie à ce grand courant qui est l'économie régénérative, où finalement, ce qu'on cherche à avoir, c'est une économie qui soit une économie à externalité positive. On cherche pas à faire juste moins mal, on cherche pas à faire un truc qui soit juste, qui ferait quelque chose de bien sans faire de mal par rapport à côté, mais on va plutôt chercher à avoir une économie qui, en plus de sa fonction première, va entretenir la résilience du système dans lequel elle intervient, sa capacité d'adaptation, sa capacité d'évolution face à des changements globaux qui de toute façon seront là. Et donc c'est ça l'économie régénérative, c'est finalement agir sur le présent en préparant le futur. Et exactement comme je reprends encore la métaphore agricole, un permaculteur est quelqu'un qui nourrit le sol et pas la plante. On aime bien dire qu'on ne tire pas sur les feuilles pour faire pousser la plante plus vite. Donc on crée les conditions des récoltes futures en enrichissant le sol, en travaillant avec la biodiversité, la microfaune, la microflore du sol pour mieux fixer les nutriments, mieux conserver l'eau, mieux conserver l'énergie finalement dans le sol. Bah, tout ça, c'est favorable à la récolte présente. Et c'est d'ailleurs un principe de la permaculture, hein, c'est obtenir une production, obtenir une récolte, tout en préparant les conditions des récoltes futures, parce qu'on aura augmenté la capacité du système à soutenir finalement cette production. Ben, c'est exactement ce qu'on cherche à faire dans tous les domaines. Et là, finalement, quand on s'intéresse à une entreprise, on ne va du coup pas s'intéresser à l'entreprise seule, mais on va s'intéresser à l'entreprise dans son écosystème productif. Alors son écosystème, il peut être institutionnel, il peut être le territoire, il peut être les autres acteurs de sa chaîne de valeur, donc ses fournisseurs, ses sous-traitants, etc. Il peut être aussi la confiance des riverains, mais c'est aussi évidemment son écosystème naturel et donc l'ensemble des fonctions écologiques qui ne dépendent pas de l'humain, mais par contre dont l'humain dépend.
Et du coup, la deuxième question qui m'est venue avant, c'est quels sont, donc on parlait de Umda et de déchets, quels sont les liens entre permaéconomie et économie circulaire ?
J'ai envie de dire que l'économie circulaire, c'est une brique essentielle de la permaéconomie. Une économie circulaire qui serait pensée de manière désincarnée, un peu hors sol, déconnectée du vivant et des principes du vivant, c'est juste une machine à produire qui générera éventuellement des effets rebonds, etc., et qui ne prendra pas réellement en compte la dynamique du vivant. L'intention de la permaculture ou de la permaéconomie ou de l'économie régénérative, c'est finalement de mobiliser l'ensemble des compétences, des principes, des concepts de l'économie circulaire, mais pour les relier fondamentalement au tissu vivant de la planète et à l'humain.
D'accord, donc en fait c'est reprendre, c'est finalement recontextualiser, et au moment, je suppose, de l'inspiration, de l'application, plus que de prendre l'entrée économie circulaire purement déchets ou purement industrielle, c'est la reconnecter avec les pressions sur les ressources naturelles, la capacité à se régénérer, et on va dire en quoi la circularité peut permettre la résilience de l'écosystème naturel. Enfin, c'est créer ce pont entre l'économie circulaire industrielle et le côté écosystème naturel, en fait.
Et c'est d'ailleurs ce pont, honnêtement, hein, il existait dès le départ. Si on prend les travaux de Søren Erkmann, par exemple, sur l'écologie industrielle, il y avait déjà tous ces liens avec le vivant. Mais c'est une dérive possible. Comme à chaque fois qu'on a un outil qui est intéressant, d'ailleurs, hein, il y a une spécialisation, il y a des experts, et plus on devient expert d'un sujet, plus on perd de liens, souvent, les liens que ce sujet peut avoir avec d'autres sujets. Et donc l'idée, c'est de réinjecter de la transdisciplinarité là-dedans, de réinjecter de l'humain, de réinjecter de l'écologie, de réinjecter de la biologie, et se dire que finalement, quelle que soit l'activité qu'on a, tout vient du vivant et tout retourne au vivant. Donc ça veut dire que tous les impacts positifs ou négatifs, d'ailleurs, de nos activités retournent au vivant.
D'accord. Et du coup, moi, ma question, il y en a une autre qui arrive. De quelle manière, toi, enfin, comment tu t'y prends pour reconnecter, donc hormis hein, évidemment l'état d'esprit dans lequel, je suppose, tu vas mettre tes interlocuteurs, éventuellement tes clients ou tes partenaires, quels sont, je sais pas, les outils, comment tu t'y prends pour reconnecter les gens avec la nature, pour intégrer la biosphère? Est-ce que c'est des expéditions? Est-ce que c'est développer leur capacité d'observation? Est-ce que c'est quand tu les mets en situation, mettre des petites touches de biomimétisme par-ci par-là? Comment on fait? Parce que c'est pas si facile, quoi.
Non, c'est marrant parce que c'est en même temps pas si facile et très facile.
Oui.
Parce que les humains, quels qu'ils soient, ont un désir, en ce moment en particulier, de retrouver du sens dans leur travail, s'émerveillent facilement. Et donc, je pense que la plupart des adultes aujourd'hui, hein, quel que soit leur métier, ont cette capacité d'émerveillement qu'on avait quand on est enfant. Parfois, on l'a simplement oublié, mais c'est pas très très compliqué de le refaire, la retrouver. Et donc, effectivement, tu parlais d'expédition, mais l'expédition, ça peut être simplement d'ouvrir la fenêtre et de regarder dehors. Ça peut être de sortir et d'aller dans un jardin. Alors, si on a un parc public tout près, c'est très bien. Si on a la chance d'avoir un potager et si en plus il est en permaculture, c'est encore mieux, ce que je fais souvent sur des séminaires que j'anime. Et donc là, on fait un petit détour par le potager, on explique ce qui se passe, ce qu'on voit, mais aussi surtout ce qu'on ne voit pas, mais qui est très facile à expliquer et à révéler. Et là, on commence à avoir des yeux qui s'écarquillent, et puis des gens qui comprennent spontanément et qui font des liens très spontanément avec leurs activités. Donc c'est finalement beaucoup plus facile qu'on l'imagine. Après, quand on a fait ça, on a souvent que préparé le terrain, c'est-à-dire qu'on a créé les conditions d'une écoute favorable, on a créé les conditions d'une éventuelle remise en question des manières de faire actuelles. Et c'est là que le travail commence, c'est-à-dire que c'est là qu'il va falloir commencer à collecter des données solides, c'est là qu'il va falloir les confronter à un certain nombre de modèles. Typiquement, si on est sur une approche biomimétique, il y a des tas de méthodes hein, qui sont enseignées, par exemple, par le CEBIOS, l'Institut des Futurs Souhaitables et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc là, on est sur des méthodes très concrètes, très opérationnelles. Il y a des modes de réflexe, de réflexion et des réflexes à acquérir, d'ailleurs, justement, qui ne sont pas ceux qu'on a l'habitude d'avoir. Et du coup, on rentrerait dans quelque chose que j'appellerais du design systémique, c'est-à-dire de concevoir de nouvelles manières de faire, mais en permanence en les éclairant d'autres disciplines, d'autres aspects, d'autres parties prenantes, donc couches de la société, mais aussi les parties prenantes que sont le vivant, non humain, etc. Donc de réfléchir à toutes ces interactions-là. Et c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire. Donc ça, c'est vraiment un gros travail d'apprentissage. Donc c'est facile au début d'amorcer, et après c'est tout un travail d'entraînement. Enfin, c'est comme tout, quoi. L'esprit doit s'entraîner pour dès qu'il y a une discipline nouvelle.
D'accord. Et donc ça, c'est pour la partie nature. Il y a autre chose aussi qui est super présent dans ta démarche et dans les projets que tu portes, c'est toute la dimension humaine. Alors bon, on a bien compris, hein, le côté coopération, le côté inclusion, le côté écoute et implication, mais j'ai aussi l'impression que pour toi, dans les projets, quand on y remet de l'humain, on en parlait juste avant en off, quand on remet de l'humain, on va gagner en résilience.
Oui, y a plein de manières de gagner en résilience, mais déjà quand on mobilise finalement ces ressorts de l'intelligence collective, et d'ailleurs on parle beaucoup d'intelligence collective, on ne parle pas tellement de créativité collective, mais il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on a effectivement plus d'idées quand on est plus nombreux autour de la table, et souvent ces idées peuvent en générer d'autres, et encore une fois là, l'émergence marche très bien, et donc plusieurs idées mises ensemble vont en générer d'autres qui ne seraient pas venues toutes seules comme ça spontanément. Donc cette créativité fait qu'on va faire foisonner des pistes de solutions qu'on n'aurait pas forcément explorées. Et donc c'est vraiment à ce titre-là qu'il y a un travail sur la résilience. Le deuxième aspect, c'est que cette diversité humaine qu'on va associer à ces projets, à cette conception, à cette transformation des entreprises, de leur gouvernance ou de leur modèle économique, fera que plus on aura de regards qui vont se croiser et que ces regards ne seront pas stéréotypés, parce qu'on aura eu des personnes qui ont des parcours différents, qui seront à des étapes de la vie différentes. Certains seront papas, d'autres mamans, d'autres ne le seront pas encore, le seront plus tard, certains sont déjà grands-parents. Certains ont des parcours et des passions différentes aussi, et des sensibilités différentes. Bah, tout ça va créer les conditions, effectivement, d'une peut-être une plus grande robustesse des décisions qui vont être prises.
Et ça, c'est plus au niveau, on va dire, de la prise de décision et du processus de réflexion, mais même en termes d'après d'action.
Oui.
Et de mise en place de projets. Tu vois, par exemple, dans la partie opérationnelle et exécution, t'essayes aussi à travers la permaéconomie je sais pas si on est par exemple sur des tâches qui étaient avant uniquement à un niveau technologique ou faites par des machines ou j'en sais rien, le fait de remettre un petit peu d'humain dans l'exécution, de valoriser les savoir-faire au niveau de l'exécution, ça c'est quelque chose qui est important aussi.
Oui, c'est quelque chose qui est central, et on se rend compte par exemple je vais rentrer sur l'illustration d'un des concepts de l'économie circulaire, qui est l'économie de la fonctionnalité, qu'on appelle souvent l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On se rend compte que de plus en plus, si on ne cherche pas à vendre à toute force un produit ou un service à un client, mais qu'on cherche vraiment à résoudre le problème du client en lui apportant le bon niveau de performance, en lui apportant une solution qui va être contextualisée et adaptée à son besoin propre, ben ça suppose d'avoir une très très bonne connaissance du client. Et ça, c'est pas seulement la technologie, les big data, la télésurveillance, etc. qui va nous l'apporter. C'est vraiment le contact humain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi dans du non-dit, il y a des choses qui sont dans de l'informel, et ça, il n'y a que l'humain qui peut le révéler. Et un exemple qu'on constate souvent, c'est que des métiers qui étaient souvent un peu périphériques, peu valorisés, voire parfois carrément sous-traités, parce qu'on ne les considérait pas comme fortement créateurs de valeur, voire non stratégiques, c'était la maintenance. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, en fait, cette fonction maintenance, c'est elle qui permet de faire remonter le plus d'informations pertinentes sur ce qui se passe vraiment chez le client, sur la manière dont les produits d'un fournisseur sont utilisés chez le client, et donc sur tout ce contexte d'usage et tous ces facteurs, parfois un peu inattendus, parfois liés beaucoup à du comportement, qui font que le même produit ne va pas du tout délivrer la même performance d'un contexte à un autre. Et ça, le technicien de maintenance, il le voit. Et le plus dur peut-être, c'est de lui faire comprendre que justement, il a d'énormes leviers d'action, qu'il est détenteur d'un savoir qui est un savoir qui est extrêmement créateur de valeur pour l'entreprise, et donc du coup le valoriser dans ses compétences-là. Et ça, ça peut changer énormément de choses, mais ça suppose de faire changer un petit peu le centre de gravité de l'entreprise et de faire participer ces techniciens à la gouvernance et même à la conception des offres.
Ouais, c'est passionnant et ça me fait penser à un projet en plus qui était porté à Marseille sur la gestion des déchets. Et en fait, dans les solutions, ils étaient repartis, les personnes qui étaient en charge de ce truc-là, sur des choses très connectées, notamment des puces qui permettaient de tracer le poids, le contenu et également la récurrence des poubelles des Marseillais pour pouvoir mieux anticiper où sont les déchets, quels sont-ils, et du coup apporter des solutions on va dire un peu sur mesure. Donc un truc hyper connecté. Et en fait, après plusieurs semaines de réflexion, je sais pas comment c'est venu, mais ils se sont rendus compte que cette information, elle existait déjà. Et qu'en fait, cette information, il suffisait de mobiliser et d'impliquer les reapers et les collecteurs, qui sont finalement ceux qui savent où il y a des déchets, où il y a des poubelles, à quel moment il y en a, et qu'est-ce qu'il y a dans ces poubelles-là, quoi. Et en fait, ils y ont pensé du coup un peu tard, mais ils se sont dit, cette information, elle est là, il suffit juste de les impliquer et de repenser aussi, effectivement, vers où on veut aller. Est-ce qu'on veut du techno pour du techno, ou est-ce qu'on veut répondre aux besoins de base, qui est apporter une solution et anticiper le problème de déchets, dans quel cas les reapers sont les meilleurs alliés, quoi.
Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent finalement, c'est que on a ce réflexe-là maintenant qui est de dire on a un problème, on va trouver une solution technique et on va commencer par mettre un capteur qui va collecter des données pour essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Et en fait, si on creuse un tout petit peu plus, d'abord la solution, elle est pas technique ou pas seulement technique, elle est surtout avant tout comportementale. Et il se trouve que justement sur ces aspects comportementaux, c'est des humains, des gens qui travaillent, qui les observent, ces comportements, qui parfois les observent sans même les relever, tout simplement parce que personne ne leur pose la question, mais que si on arrive à poser les bonnes questions, on va pouvoir observer ces tendances et ces signaux-là à temps et beaucoup plus efficacement que des capteurs. Je prendrai un exemple, c'est celui par exemple, on est en pleine période de canicule, la fameuse problématique des îlots de chaleur urbains. Où aujourd'hui, de plus en plus, la réponse, c'est de dire on va mettre des capteurs, on va climatiser, on va essayer de mettre un petit peu d'intelligence, une approche smart city, etc. Alors qu'en fait, c'est essentiellement des comportements, c'est essentiellement lié à la manière dont on va aménager les centres-villes, c'est la manière aussi dont les commerçants vont chercher à attirer le chaland et du coup, on commercialise les boutiques, etc. C'est quand même un paradoxe, par exemple, que dans les vieilles cités provençales, où les rues étroites étaient conçues précisément pour les mettre à l'abri du soleil et rester fraîches. En fait, dans ces rues des centres-villes, maintenant, on a des vitrines avec des climatiseurs partout. Et ces climatiseurs, évidemment, rejettent la chaleur dans la rue. Donc, on a une très forte concentration de chaleur dans des endroits qui, précisément, ne devraient pas l'être. Et c'est une évolution de l'usage de ces centres-villes qui a créé ces problèmes d'isolation de chaleur.
C'est passionnant. En plus, ça revient à ce que tu disais, à penser système, quoi. C'est-à-dire qu'on est focalisé îlot de chaleur, mais on va pas chercher déjà la cause. Et puis, on va pas au-delà. C'est-à-dire que les comportements, vu qu'on est, focus et centré sur un seul élément, on va pas essayer de voir les flux, les interactions qui pourraient être soit la cause, soit tout simplement les éviter, quoi.
Oui, les évolutions sociales et économiques de la manière qu'on peut avoir d'habiter l'espace urbain, par exemple, oui, clairement.
Et du coup, moi, je me pose la question sur comment aujourd'hui, parce que ces choses-là, au-delà du fait que moi, je sois convaincue, c'est on va dire, un état d'esprit et des méthodologies qu'on aimerait développer un maximum. Quels sont les freins auxquels toi, tu te confrontes ou, d'un point de vue... acceptation et adhésion des acteurs privés ou non face à la permaéconomie ou face à ces principes que tu évoques, quoi. Est-ce que c'est plutôt très facile de les convaincre? Est-ce qu'il y a des arguments qui leur parlent plus que d'autres? Comment ça marche, quoi?
Je vois au moins deux freins qui sont pour le coup vraiment des freins culturels, mais aussi des freins d'ordre économique. Le premier, c'est la vitesse. Il faut que les choses aillent vite, il faut que les choses donnent des résultats rapides. Or, on parlait de résilience. Si on veut que la solution qu'on apporte, elle soit résiliente, elle soit auto-adaptative, qu'elle soit robuste, c'est-à-dire qu'elle soit capable d'apporter des solutions synergiques à plusieurs problèmes en même temps et de manière durable, alors pas au sens développement durable, mais durer dans le temps, ces solutions-là, peut-être qu'elles vont mettre plus de temps à être déployées et peut-être qu'on va avoir des solutions qui vont avoir une montée en puissance graduelle et beaucoup plus lente aussi. Bon, alors ça tombe bien, c'est aussi un des principes de la permaculture, adopter des solutions lentes et à petite échelle, mais culturellement, on n'est pas toujours prêt à ça. La deuxième chose, c'est qu'on a vraiment un manque de culture de la complexité et de capacité même à comprendre et à intégrer ce qu'il y a de positif à la complexité. C'est-à-dire que complexité dans le langage moderne est devenue presque un frein à l'action, une excuse qu'on va mettre en avant en disant les choses sont complexes, on ne peut rien faire. Alors qu'en fait non, la complexité c'est le moteur de la vie. Sans complexité, il n'y aurait pas de vivant. La complexité c'est simplement les interactions des éléments d'un système entre eux et avec le système général. Et finalement, on est en permanence en train d'interagir. Et ce sont par ces interactions qu'on va pouvoir avoir des leviers d'action. Le problème c'est que dans la pensée réductionniste qu'on a et qui est un petit peu hérité du positivisme du 19e siècle, de la pensée moderne, cartésienne, etc. On cherche en général plutôt à décomposer les systèmes et donc on va s'intéresser aux entités et pas aux relations. Ouais. Et typiquement, tiens, je prends un autre exemple aussi, j'ai parlé d'éducation tout à l'heure, on est face à de l'échec scolaire par exemple. On va se poser la question de est-ce que c'est l'enfant ? Est-ce que c'est les enfants qui ont un problème aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est les professeurs ? Est-ce que c'est la compétence des professeurs, etc. Non, est-ce que tout simplement que le problème il viendrait de la relation, de l'interaction entre l'enseignant et l'élève ? Et comment on pourrait faire pour renforcer la solidité de ces liens, l'intensité de ces interactions ? Dans la pensée complexe, on va chercher beaucoup plus à agir sur les interactions que sur les entités. Et c'est vrai un petit peu partout. Pour reprendre l'exemple de l'économie de la fonctionnalité tout à l'heure, ces nouveaux modèles économiques, ce qui va changer en premier lieu, c'est les modalités de relation client, les modalités de contractualisation entre un client et un fournisseur. L'offre va changer, évidemment, mais ce qui change essentiellement, c'est la manière dont cette offre est délivrée et donc les canaux de relation avec le client qu'on va pouvoir mettre en avant et développer. Voilà encore un exemple qui va être intéressant. Et je refais un petit détour par le jardin, en permaculture aussi. On travaille beaucoup sur les associations entre plantes, par exemple. Ce sont ces associations entre plantes qui sont essentielles, beaucoup plus que les plantes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'un haricot tout seul, c'est bien, un maïs tout seul, c'est bien, mais un haricot plus un maïs, ça commence à créer un système résilient, et les deux vont interagir, et finalement, les deux vont contribuer ensemble à renforcer le système dans lequel ils agissent.
Et du coup, quel est l'angle d'attaque et comment, parce que ça, c'est les freins auxquels tu fais face, mais j'imagine que si t'en parles encore aujourd'hui, au-delà du fait que t'y crois, c'est que ça fonctionne. Donc, les structures ou les organisations que toi, enfin, avec lesquelles toi tu bosses ou qui mettent aujourd'hui en, qui appliquent certains de ces principes, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, avant tout, et surtout, comment on parvient à les convaincre, en fait?
Je pense que celles qui viennent chercher quelque chose, c'est pas les plus difficiles à convaincre, parce que si elles viennent chercher quelque chose, c'est qu'elles sont déjà dans une
position. Alors, celles qui sont pas convaincues.
Elles ont déjà fait le constat d'un problème qu'elles ont et que les méthodes classiques n'arrivent pas à résoudre.
Ouais.
Donc elles se disent tiens, on va regarder ailleurs, on va chercher à faire un petit peu autrement. Les autres, c'est précisément de travailler, ce que je disais tout à l'heure un petit peu aussi sur. Finalement, faire un pas de côté et passer par des savoirs moins formels, passer par cette capacité d'émerveillement, passer par les émotions. Et finalement, on se rend compte que par les émotions, on apprend beaucoup aussi. Mm-hmm. Simplement parce qu'on est tous vivants, on a ce qu'on appelle la biophilie, qui fait que l'interaction avec du vivant nous aide beaucoup, nous fait du bien. Ça a été démontré. On sait aujourd'hui qu'un espace de travail qui est bien végétalisé est plutôt apaisant. donc il va y avoir moins de conflits. On sait aussi que, par exemple, un patient dans un hôpital, s'il a une fenêtre qui donne sur un espace arboré, va avoir une guérison plus rapide, une convalescence plus rapide, ça paraît fou, hein, mais c'est comme ça, qu'un patient qui aura une fenêtre qui donne sur un parking, par exemple.
Ouais.
Donc ça, ce sont des choses qu'on peut expliquer. Et que les gens intègrent assez facilement. Et faire ce petit détour par le jardin, sortir, regarder par la fenêtre, etc., encore une fois, c'est des éléments de démonstration assez simples. Alors, si on n'a pas ça et qu'on est dans une salle de réunion, dans une tour à la Défense aveugle, on peut toujours leur projeter un petit film. Mmh. et on peut leur montrer, c'est ça qui est important aussi, que montrer et démontrer que nous vivons, de toute façon, qu'on le veuille ou non, dans une interdépendance radicale vis-à-vis de tout ce vivant non humain que nous ne maîtrisons pas. Moi, il y a un exemple que j'aime bien utiliser, c'est simplement celui des 2,5 kg de bactéries, donc à peu près 1000 fois plus de bactéries et de cellules non humaines que de cellules humaines dans notre enveloppe corporelle. Ça veut dire que sur ces 2,5 kg de bactéries, nous promenons en permanence avec nous notre écosystème, et qui est un écosystème symbiotique, parce qu'on ne serait pas capable de respirer, de digérer nos aliments, de lutter contre les maladies, si on n'avait pas cet écosystème diversifié, qu'on ne connaît pas encore très bien, puisqu'on n'a séquencé que la moitié du génome, en fait, de nos symbiotes, mais dont on dépend radicalement. Rien que ce petit exemple-là montre l'importance de la diversité, de la biodiversité, et de ces interactions qu'on ne maîtrise pas toujours, mais qu'il faut être capable de favoriser quand même.
D'accord, et du coup, moi, parce que la résilience, c'est quelque chose qui parle, enfin, honnêtement, hein, nous, on se confronte à ça, qui ne parle pas à tous, de manière, on va dire, peut-être plus explicite. C'est une organisation, elle gagne tu parles de durabilité, pas au sens développement durable, mais dans le sens durée dans le temps, donc elle gagne en durabilité, enfin en pérennité, en solidité, j'imagine, en création de valeur.
En agilité, en capacité d'adaptation face à l'imprévu. Et celui qui me dit que son environnement est balisé et qu'il a aucun, il a que des certitudes devant lui, etc., ben je lui dis tant mieux, bonne route, continuez comme ça, et que le vent vous porte loin. Mais je doute que ça existe réellement, ce genre de situation.
Oui, oui, on est d'accord. Super. Est-ce que tu aurais deux conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient commencer à mettre en place des fameuses actions et systèmes plus résilients, hormis t'appeler?
Oui, peut-être la première, c'est de bien poser le problème, donc de prendre le temps de l'observer, de prendre le temps de croiser les regards. Et effectivement, un bon traitement commence toujours par un bon diagnostic. Je crois qu'Einstein avait dit, si j'avais une heure pour sauver le monde, je passerais d'abord 55 minutes à bien poser le problème. Voilà, ça c'est le premier conseil qu'on peut donner, c'est de ne pas se précipiter, de prendre le temps. La deuxième solution, le deuxième conseil plutôt, effectivement, c'est pas forcément de m'appeler moi, mais c'est de pas hésiter à en parler à des personnes de confiance, de pas hésiter à croiser les regards aussi, là, de consulter différents avis, puis surtout de s'inspirer, de s'émerveiller. Alors on peut s'inspirer d'un cas d'entreprise qui a bien marché, on peut s'inspirer, si on est une collectivité, d'un exemple près de chez soi ou loin de chez soi qui a bien marché aussi. On peut lire, il y a des tas de livres en ce moment, je n'aurai pas de référence, mais il y a des quantités qui sont très très inspirantes, très intéressantes. Et puis, accepter, encore une fois, que on va passer par différentes étapes, que tout ne va pas être réglé du jour au lendemain, que peut-être qu'on n'arrivera pas du tout au but qu'on s'était fixé au départ, mais tout simplement peut-être parce qu'on aura trouvé encore mieux en chemin. Ça, j'aime bien cette idée aussi de démarche d'innovation ouverte, en se disant, bah tiens, on se fixe pas forcément un cap avec une feuille de route bien tracée à l'avance, mais on va être attentif aussi aux bourgeons latéraux, et en se disant peut-être que c'est sur un truc qu'on n'avait pas du tout prévu que les choses vont réellement se passer.
Ok, super. Merci beaucoup. Un grand merci pour cet échange et pour toutes ces informations, ces citations, ces chiffres. C'est passionnant. Et puis, je vous recommande vivement de lire les deux livres d'Emmanuel qui sont vraiment géniaux pour les avoir lus. Et en plus, ce qui est assez bien, c'est qu'ils sont très, très concrets et faciles de compréhension et du coup de lecture. Est-ce que il y a des éléments, je sais pas, en termes éventuellement de contact, des événements que tu organises, des formations que tu souhaiterais partager avant qu'on termine l'épisode?
Alors, des formations, il y en a. Bon, on les mettra sur notre site, hein, Pikaya.fr. Je n'ai pas forcément de date là à court terme, mais je sais qu'il y aura une date en octobre-novembre d'une formation à la permaéconomie faite en association avec une structure qui s'appelle Culture Permanente à Marseille.
Okay.
Il y a les formations du Sébios en biomimétisme que je recommande vivement aussi. Et puis, ma foi, il y a plein d'autres événements. Il faut rester très attentif. Si vous venez à Biomim Expo, et on s'y retrouvera tous, je pense qu'on vous y retrouvera aussi. Voilà. J'ai pas les dates en tête, mais voilà, ça se trouve facilement sur Internet, ce genre de choses. Voilà, non, et puis soyez à l'écoute. Merci en tout cas, c'était un grand plaisir.
Super, merci beaucoup Emmanuel, à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.